Une laïcité à la belge, conférence de Thomas Ponson, donnée à Bruxelles Sceptico-Pub, le samedi 17 mars 2012.
Bien voilà, donc bonjour à tous. Je voudrais déjà vous remercier d'être venus si nombreux à cette conférence. Remercier d'autre part aussi Jean-Michel Abrassard qui m'a permis de venir ici pour parler donc d'un sujet qui me tenait à cœur, donc la laïcité. Donc voilà, je m'appelle Thomas Ponson. Je suis ancien employé au CAL de Liège, donc au Centre d'Action Laïque de Liège. Et par la même occasion, j'initie deux mouvements. J'initie donc une association donc, qui sont les athées humanistes de Belgique et d'autre part le RAPEL qui est le réseau d'action pour la promotion d'un état laïque. On en discutera un peu après pendant la conférence. Donc en fait on est ici en fait, pour un peu essayer de décrypter ce que c'est la laïcité et plus particulièrement celle en Belgique. On verra un peu les différences avec la France. Alain Pilette, en fait, m'a dit la dernière fois, donc Alain Pilette, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc c'est un autre initiateur de Skeptics in the Pub, qui m'a dit, bah oui, on sait bien qu'on n'est pas dans un pays laïque, il suffit de voir les partis politiques. Donc on se souvient de l'ancien CDH, en PSC, donc Parti Socialiste Chrétien, on voit donc du côté flamand le CDNV, Chrétien Démocrate en Vlaams, et puis d'autres partis qui n'ont pas de représentants au Sénat et à la Chambre, donc le MDP, donc du côté flamand, qui est Muslim Democratic Party, donc Parti démocrate musulman, et ici en Wallonie, donc le PJM, donc les partis des jeunes musulmans. Voilà. Donc en fait, on voit effectivement sur ce point qu'Alain a tout à fait raison quand on dit qu'on n'est pas du tout dans une laïcité, et encore moins dans une certaine neutralité politique. Seulement, on voit aussi que les choses ne sont pas très claires pour tout le monde. Jean-Michel Abrassard m'a dit la dernière fois, tu viendras plus nous parler d'athéisme, ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui n'est pas tout à fait exact non plus. Mais ne t'inquiète pas, Jean-Michel, tu verras aussi que dans les hautes sphères de la société, les choses ne sont absolument pas claires non plus. Notamment lorsque Nadia Geertz est passée sur les ondes de Bel RTL par rapport donc, à l'événement donc, du 7 février dernier, lorsqu'il y a eu une conférence sur l'extrême droite et que Caroline Fourest est venue. Donc il y a eu effectivement un souci avec certains protagonistes que l'on connaît. Et donc le journaliste donc, lui a demandé, est-ce que vous n'avez pas peur que cet événement bafoue la laïcité en Belgique? Et elle lui a répondu assez logiquement que pour bafouer une laïcité, il faudrait dire qu'il y en ait une. Pas faux. Après ça, en fait, je me suis rendu à des conférences lors de la semaine de la laïcité. Donc ce sont des conférences qui se faisaient à l'ULB. La première concernait donc la laïcité et l'enseignement. Et l'un des orateurs, Hervé Asquin, qui est donc docteur en histoire des religions, a tout simplement décrété que nous nous trouvions bien dans un système laïque, malgré le fait que ce ne soit pas le même qu'en France. Puis, j'étais aussi à celle donc, du mercredi, où là, c'était sur les accords déraisonnables, enfin, accords raisonnables et déraisonnables par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec certains phénomènes religieux. Et là, donc, un autre orateur, Jean-Philippe Schreiber, qui lui a déclaré que notre constitution était bel et bien pourvue d'articles garants d'une laïcité politique. Mais j'ai beau lire et relire cette constitution, je n'en trouve pas. Donc voilà, en fait, je vous présentais donc, les différents points qu'on va aborder ce soir. Déjà, premièrement, laïque ou laïque, parce que c'est vrai qu'on voit très 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 souvent laïque avec un C, alors que c'est une erreur. Plus, laïque avec un C pour parler en fait donc, des personnes, des partisans ou bien alors des institutions qui sont contre le pouvoir clérical. Après, nous ferons un bref aperçu donc, sur le siècle des Lumières, où on verra quelques philosophes qui ont décidé de sortir de l'ombre pour lutter justement contre ce pouvoir clérical. Nous aborderons la laïcité française, donc, où là on va un peu essayer de retracer tout l'historique de la France depuis sa révolution jusqu'aux accords de 2004 sur la neutralité de l'enseignement là-bas, donc sur l'interdiction de signes religieux ostentatoires dans l'enseignement. Après, on va voir un peu la situation belge, la différence qu'il y a ici en Belgique entre laïcité politique et laïcité philosophique, parce qu'il faut savoir que lequel travaille sur deux axes. Après, nous verrons comment lequel réagit face aux religions en société, que ce soit donc dans le milieu scolaire avec le refus d'assister aux cours de biologie parce que certaines croyances créationnistes, le refus d'aller au cours de natation, etc. Nous verrons aussi un petit peu l'obscurantisme en Europe. On a vu en fait certains débats entre le Parlement européen et les laïcs. Et on verra que c'est assez amusant en fait ce soi-disant dialogue qu'il y a. Et puis après, je parlerai très brièvement en fait des francs-maçons, parce qu'en fait, il faut savoir que bien qu'on n'en parle pas beaucoup, ils ont eu quand même un petit peu d'importance dans tout le mouvement laïque ici en Belgique. Commençons en fait avec laïque et laïque. Alors ici, donc, je vais vous parler donc de laïque et laïque. Pour que ce soit plus clair dans votre esprit, j'ai préparé deux feuilles, laïque avec un C et laïque avec QE. Ce qui va vous permettre un peu mieux comprendre le contexte. Alors, au Moyen-Âge, on disait laïque. Il y avait dans le couvent des frères laïcs et des sœurs laïques. C'était des personnes qui vivaient dans l'enceinte d'une communauté monastique sans avoir prononcé de vœux et remplissaient des offices de domesticité. Les deux vocables, laïque et laïque, sont ce qu'on appelle en fait en grammaire historique des doublets. Ce sont deux formes du même mot. L'une populaire, l'autre savante, comme le sont par exemple frêle, fragile, raide, rigide, pâtre, pasteur, porcher, portique, etc. L'une et l'autre forme représentent le latin laicus, laïque, ici, et la forme populaire, qui date des premiers temps de notre langue, et laïque, QE, et la forme savante qui n'a été employée qu'à partir du XVIe siècle. Le mot populaire reproduit plus exactement l'original que ne le fait le mot savant. En effet, ces termes ont été créés à une époque où on avait perdu le souvenir de la prononciation du latin. Mais que voulait-il dire et d'où venait-il? On en recherchait vainement l'étymologie dans les racines propres à la langue de Rome. En fait, ils étaient étrangers. Ce sont les transcriptions latines de l'adjectif grec laikos. Et celui-ci est dérivé du substantif laos qui signifie peuple ou nation. Le véritable sens, le sens primitif et étymologique du mot laïque ou laïque, est donc celui de populaire ou national. Ce mot fut employé dans les premières communautés chrétiennes où on parlait grec. On sait que le grec est la langue des évangiles. Il servit à désigner, au moment où dans ces communautés se constituait un clergé distinct du peuple et élevé au-dessus de ses fidèles, ceux qui n'étaient pas du clergé, mais qui cependant étaient religieux et formaient la masse populaire appartenant à l'Église. Une façon de mieux déterminer la valeur exacte du mot « laïque », c'est de rechercher quel est son contraire, quel est le mot qui s'oppose le plus à lui, comme par exemple « civil » s'oppose à « militaire » ou « public » à « privé ». Le mot qui s'oppose étymologiquement et historiquement à « laïque » est le mot « clair ». Le mot clair, qui aujourd'hui a reçu plusieurs acceptations assez éloignées l'une de l'autre, n'a eu à l'origine en fait qu'une signification unique, donc celle du membre du clergé. Le français moderne a donc créé un adjectif clérical, qui est une forme savante. Donc clérical est à laïque, ce que clair est à laïque. On commence tout doucement à voir clérical, laïque, et clair, laïque. Le grec nous fournira la racine de clair et de clericus. Le latin clericus est donc la retranscription de l'adjectif clericos, qui a pris dans le langage des auteurs ecclésiastiques le sens de clergé. Ceux qui font partie du clericos, ce sont ceux qui forment le bon lot, ceux qui ont été mis à part, les élus. C'est-à-dire au début les chrétiens par opposition aux gentils, et plus tard la société chrétienne par opposition à ceux qui n'étaient pas. Ces recherches étymologiques conduisent à autre chose qu'à la satisfaction d'une vaine curiosité. Les constatations que nous venons de faire portent avec elles leur enseignement. Le clergé, les clercs, c'est une fraction de la société. Qui se tient pour spécialement élu, et qui, mis à part, pense avoir reçu la mission divine de gouverner le reste des humains. L'esprit clérical, c'est la prétention de cette minorité à dominer la majorité au nom d'une religion. Les laïcs, avec un C, c'est le peuple, c'est la masse non mise à part, c'est tout le monde, les clercs exceptés. Et l'esprit laïque, c'est l'ensemble des aspirations du peuple, du Laos, c'est l'esprit démocratique et populaire. Le nouveau sens ici en Belgique ou en France du terme laïque doit son apparition aux luttes anticléricales en France qui finissent par consacrer la séparation Église-État vers la fin du 19e siècle que nous aborderons au prochain chapitre. Depuis ces luttes anticléricales, nous n'utiliserons plus que le terme laïque. Celui-ci en tant que nom, un laïc, ou comme adjectif, un État, une école, un service laïque, par rapport à l'origine de son idée d'opposition à la domination cléricale. D'ailleurs, en 1999, le Centre d'Action Laïque, communautaire qui est ici à Bruxelles, a donné une définition officielle d'une personne luttant contre le pouvoir clérical. Donc, pour tous les laïcs, l'humain, quelle que soit son origine, ses convictions, son sexe, sa culture, est au cœur des préoccupations. Être laïque, QE, c'est militer pour la dignité de chaque individu, en combattant les pratiques discriminatoires, les exclusions et les injustices. Cela se traduit par des initiatives en faveur de l'égalité au sens le plus large, d'une solidarité, d'une démocratie et d'une citoyenneté. Donc, voilà un petit résumé. Les deux vocables, laïque et laïque, sont des doublés représentant le terme laïcus. Laïcos, laos, peuple, laïcus, laïque et laïque. Clericos, clérose, donne clericus, clerc et clergé. Laïque est quand même une forme populaire du latin, religieux n'étant pas des clercs. Laïque, forme savante du latin, néologisme désignant toute personne ou organisme opposé au pouvoir du clergé. Alors en fait, par rapport à ceci, on voit encore effectivement le mot laïque, mais qui désigne spécifiquement les religieux chrétiens qui ne font pas partie du clergé. Ce qui fait que c'est pratiquement en fait tous les croyants de Belgique. Tandis qu'effectivement, très logiquement, quand on parle d'un laïc, eh ben on parle du laïc QE, qui parle donc effectivement de cette opposition cléricale. On a d'ailleurs spécifiquement, quand je pense en fait à ce mot laïc avec un C, il y avait pas mal de curés qui recherchaient en fait des laïcs avec un C, parce qu'en fait, eux manquaient de personnes pour pouvoir s'occuper de diverses choses, et donc là, demandaient vraiment des laïcs avec un C, donc c'est ça qui m'avait fait sourire, parce que moi-même, j'étais tombé en fait dans le piège en me disant « Ils demandent des laïcs dans les églises. » C'est quand même assez bizarre. Voilà, donc nous allons passer au siècle des Lumières. Donc en fait, pour un peu expliquer justement ce qui a conduit à la Révolution française. Donc qu'est-ce que le siècle des Lumières ? Celui-ci correspondant plus ou moins au XVIIIe siècle, allant de la Révolution anglaise de 1688 à la Révolution française de 1789, ce siècle se veut éclairé par la lumière métaphorique des connaissances et non par l'illumination divine, émanation de l'absolu acquise par le passé. Elle suggère aussi une vision manichéenne du monde où l'homme éclairé s'oppose à la masse, de se rester dans les ténèbres. La formule a donc bien tant une dimension sociale qu'une dimension spatiale. Sous la plume des philosophes, les Lumières désignent par métonymie les élites européennes ouvertes aux nouveautés, une république des lettres éclairées. Cependant, cinq traits marquants d'une pensée moderne s'y affirment et peuvent être retenus. La primauté de l'esprit scientifique, la réflexion politique, le progrès de l'esprit critique, une première désacralisation de la monarchie et l'affirmation de l'idée de tolérance dans une Europe marquée par la division religieuse. Les salons, académies, loges maçonniques, tels sont les nouveaux espaces où se diffusent les lumières. Ces lieux où se croisent les anciennes et les nouvelles élites, les artistes sans fortune, les mécènes, les agents de l'État et les aventuriers, sont les creusets d'une communauté cosmopolite et hétérogène. Peu à peu, la religion catholique perd de son lustre universel. Alors en fait ici, dans un petit résumé, donc, le siècle se veut éclairé par la lumière métaphorique des connaissances. Je vais vous citer une petite citation, d'ailleurs je n'ai pas retrouvé l'auteur de cette citation si vous avez une idée. Le siècle des Lumières, siècle 1, profondément, mais combien divers. La raison éclaire tous les hommes, elle est à la lumière, plus précisément, ne s'agissant pas d'un rayon, mais d'un faisceau, les lumières. Voilà, donc ça prend un peu, résumé, les lumières ici. Alors, ici, on a vraiment des dégueulasses de photos, mais ici, en fait, on voit plus ou moins, donc. Tous les philosophes en fait, qui ont contribué à la philosophie des Lumières entre la Révolution anglaise et la Révolution française. Voltaire, Diderot, etc. Enfin, pas mal d'autres. Nous arrivons donc à la laïcité française. Donc la laïcité, ce néologisme né d'une révolution et qui fera de la France une république. Le chapitre suivant est fort condensé, excusez-moi, mais en termes de définition légaliste, il en faut quand même un petit peu, et ce sera nécessaire pour une bonne compréhension de ce système. Donc, comme vous le savez, la Révolution française a été une lutte pour l'abolition de l'Ancien Régime en août 1789. Et elle s'est accompagnée de la fin des privilèges ecclésiastiques, ainsi que de l'affirmation de principes universels, dont la liberté de conscience et l'égalité des droits. Ceci exprimé par la Déclaration des droits de l'homme, le 26 août 1789. Le concordat est le régime qui a suivi cette période organisant les rapports entre les différentes religions et l'État en France de 1801 à 1905, date de séparation des Églises et de l'État. La Troisième République a notamment recréé l'organisme du système scolaire en instaurant l'enseignement public, laïque et obligatoire. Telles sont les lois de Jules Ferry et Ferdinand Buisson de 1882. En 1882, donc, Jules Ferry est à nouveau ministre de l'Instruction. Le 28 mars, la loi relative à l'obligation et à la laïcité de l'enseignement est votée. Elle porte sur l'obligation d'instruction et non de scolarisation. L'article 4 indiquant que l'instruction peut être donnée dans les établissements d'instruction, les écoles publiques ou libres, ou dans les familles. L'enseignement de la morale religieuse est supprimé au profit d'une instruction morale et civique. Ferdinand Buisson, donc directeur de l'enseignement primaire de 1879 à 1896, supervise le travail d'écriture et de conception des lois sur la laïcité dans l'éducation. Parallèlement, il dirige la rédaction d'un dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire dont il rédige lui-même l'article sur la laïcité. Je cite « La législation française est la seule qui ait établi le régime de la laïcité d'une façon logique et complète. Laïcité de l'enseignement, laïcité du personnel enseignant. Que faut-il entendre par laïcité de l'enseignement? Nous estimons qu'il faut prendre ces mots dans le sens qui se présente le premier à l'esprit, c'est-à-dire dans leur acceptation la plus correcte et la plus simple. L'enseignement primaire est laïque en ce qui ne se confond pas avec l'enseignement religieux. Ce processus s'est conclu par la loi sur la séparation des Églises et de l'État que nous connaissons tous en 1905, qui a marqué l'aboutissement d'une laïcisation affirmée. La nouvelle loi met fin au concordat napoléen de 1801, donc c'est tout le concordat dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui régissait en fait toutes les religions. Les républicains, Ferdinand Buisson, Georges Clémenceau et les accommodeurs, Jean Jaurès, Francis de Pressensé et surtout Aristide de Briand, inventent la laïcité à la française, sans pour autant faire de référence explicite à la laïcité. Elle programme la liberté de conscience et garantit le libre exercice de culte. Article 1er, je cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. » Le premier article crée un large consensus. Cependant, le texte ne laisse que peu de marge pour son application par les mots « assure » et « garantie ». Article 2, je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Par cette loi, l'État manifeste sa volonté de neutralité religieuse. Il veut garantir à chacun les moyens d'exercer librement sa religion dans le respect d'autrui. C'est dans cet esprit que sont instituées des aumôneries dans les milieux fermés, casernes, lycées, prisons, hôpitaux, et plus tard, des émissions religieuses sur les chaînes publiques de télévision. L'État n'entend en aucune façon de limiter la liberté de conscience. Après avoir été remis en cause sous le régime de Vichy, qui favorise l'enseignement catholique, reconnaît la congrégation et subventionne l'école privée, la laïcité de l'État est affirmée dans la Constitution de 1946 et puis dans celle de 1958. Le corpus législatif poursuit lui aussi la laïcisation de la société, notamment en matière d'éducation, de politique familiale, dans l'équité entre hommes et femmes, etc. Je vous rappelle par ailleurs l'article 1er de cette Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Désormais, le socle républicain de la laïcité se résume en trois termes. Liberté, égalité, fraternité. Actuellement, certains contradicteurs de la laïcité française font une remarque assez juste. Ils énoncent le fait qu'il n'y a aucune définition de laïcité politique en France. En effet, dans les lois de 1905, aucune mention de la laïcité n'apparaît. Et d'autre part, dans la Constitution de 1958, aucune définition n'est attribuée au terme de la laïcité. Bien que l'on précise que chaque citoyen soit égal devant la loi, ce qui tiendrait plus d'une notion d'impartialité. Cela conduit à de nombreuses tensions, notamment en ce moment, en période électorale en France. Certains ne se gênent pas pour abuser de manière assez grossière du thème de la laïcité à des fins purement stratégiques. Je ne nommerai cependant pas de nom, comme Marine Le Pen. Après les lois laïques, un problème s'est posé dans les établissements scolaires avec le port de certains signes ostentatoires religieux. Ce débat s'est finalement conclu par le vote d'une loi le 15 mars 2004 qui interdit les signes, je cite, « manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ». Bon, peut-être plus clair. Dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Cette loi ne s'applique qu'aux établissements publics et ne concerne pas les établissements privés, qui sont libres d'autoriser le port de signes religieux ostensibles, pouvant donner ainsi l'impression, selon la Fédération des conseils de parents d'élèves, d'une laïcité à deux vitesses. Le texte de loi insère un article dans le Code de la Constitution, je cite, « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. On ne les fout pas à la porte directement. » Voilà. Un petit résumé, donc 1789, Révolution française, abolition de l'ancien régime, fin des privilèges ecclésiastiques. 1801, concordat avec l'Église catholique. 1882, loi relative à l'obligation et à la laïcité de l'enseignement, donc loi Ferry et Buisson. 1905, loi sur la séparation des églises et de l'État. 1958, Constitution française, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et enfin 2004, la loi dans l'enseignement interdisant les signes manifestant sensiblement une appartenance religieuse. La situation belge, on y arrive. Retournons un peu en arrière. Juste après la Révolution française, en 1794, la Belgique, d'avant la Belgique, est annexée par la Première République française et voit importer sur son territoire le processus de laïcisation volontariste tel qu'il est mené en France. L'Église aurait-elle alors perdu définitivement le contrôle de nos régions ? Pas vraiment. 1815, c'est Waterloo, la Belgique revient aux Pays-Bas. Catholiques et libéraux, très vite, cherchent à s'allier contre Guillaume Ier, Guillaume d'Orange donc. Les premiers ne supportent pas d'être gouvernés par un roi protestant. Les seconds honnissent son interventionnisme économique. La dépendance de la Belgique, en 1830, sera donc le produit direct de l'alliance de ces deux courants antagonistes. La Constitution belge a un texte de compromis. L'Église catholique, qui est reconnue comme religion majoritaire, est financée au titre de compensation des biens confisqués et des recettes supprimées à la suite de la Révolution française. La pauvre. Elle gagne ainsi la liberté de l'enseignement, un monopole de fait, et la rémunération de l'État, salaire et pension des ministres des cultes. En échange de quoi, les libéraux voient consacrer des libertés fondamentales, particulièrement progressistes pour l'époque, les droits sociaux, le suffrage universel, l'enseignement officiel gratuit pour tous. Il est important de dire qu'il n'y a jamais eu cette volonté de la part de l'État belge de se démarquer officiellement des institutions religieuses. Et donc, celle-ci a préféré une pseudo-neutralité et une reconnaissance de certains cultes par leur pseudo-utilité sociale. L'État belge n'a jamais été un État laïque et est considéré comme neutre. Et encore. En fait, le seul article de la Constitution qui énonce une neutralité de l'État, comprenne qui pourra parmi vous, est le suivant. C'est l'article 21. Je cite. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la domination, ni dans l'installation des ministres de culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf En ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse est de publication. En fait, ça dit tout simplement que l'État n'a pas le droit de mettre des chefs religieux et qu'il puisse correspondre avec eux sur certaines choses. C'est tout. Maintenant, s'il n'y a que ça, si on peut encore parler de neutralité. Par contre, un autre article, l'article 181, celui de la subvention des cultes, est lui beaucoup plus clair. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État. Les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. On ne peut pas faire plus clair. L'État belge reconnaît donc un culte selon son utilité sociale, celui-ci devant regrouper un nombre relativement élevé de membres, plusieurs dizaines de milliers, être structuré et établi sur le territoire depuis plusieurs années. 7 cultes ou 6, sans la laïcité, sont reconnus en Belgique, à savoir les cultes catholiques, protestants, israélites, anglicans, musulmans, orthodoxes, et la laïcité organisée comme conviction philosophique non confessionnelle. Vous verrez un petit peu ces notions de laïc non confessionnel, athéisme, etc. Laissez-moi vous faire une petite ligne du temps concernant les reconnaissances des cultes, ainsi que le développement des associations laïques. Ceci afin de vous démontrer que l'État a préféré reconnaître des cultes qui leur seraient utiles en temps voulu, et que cela leur permettrait d'éviter certains mécontents à d'autres moments. La reconnaissance des cultes catholiques et protestants découle d'actes antérieurs à la dépendance de l'État belge, et respectés au moment de la promulgation de la nouvelle constitution, donc celle de 1830. La reconnaissance du culte israélite intervient en 1832. L'église anglicane a été reconnue en 1870 par un fait très simple, c'était l'origine du roi Léopold de l'époque, qui était d'origine anglo-saxonne. Jusqu'en 1914, une première guerre scolaire conduira des élections qui verront le parti catholique prendre le pouvoir et s'y maintenir. On parle alors de colonisation intérieure de la Belgique par l'église, qui ne manque pas, par l'occasion, de placer ses pions à tous les niveaux du pouvoir. Dans un même temps, les premières associations laïques vont émerger, comme l'Union des anciens de l'ULB en 1831, qui devient association en 1925, la Libre Pense en Belgique en 1863, la Ligue de l'Enseignement en 1864 et la création du Librex en 1921. Ce n'est qu'en 1958, début 59, que le fameux pacte scolaire impose à l'État de mettre sur pied un enseignement libre de choix, battant en brèche le monopole catholique, prévoyant l'organisation généralisée dans les écoles officielles de cours de religion minoritaire et de morale laïque non confessionnelle, à côté de cours religion catholique. L'ISAM a été reconnu en 1974. En effet, la Belgique a fait appel dans les années 1960 à une main-d'œuvre d'origine étrangère, principalement marocaine et turque, pour des raisons économiques et démographiques. Ceci étant, elle ne s'est réellement perçue que très tardivement comme société d'accueil et d'installation de cette immigration. Ceci a entraîné des tensions quant à la présence des immigrés et aux accommodements nécessaires de la collectivité par rapport à certaines pratiques musulmanes, par exemple l'organisation de la fête du sacrifice. La reconnaissance de la religion musulmane a donc eu lieu en 1974 et l'islam a rejoint donc les autres confessions déjà reconnues. Durant les années 60 et 70, les associations laïques fleurissent, la pensée et les hommes, assistance de morale aux détenus, première fête de la jeunesse laïque, la Ligue humaniste, pour en arriver à la fondation du Centre d'action laïque communautaire que nous avons ici en Belgique et donc qui gère les centres d'action laïque régionaux, qui s'est fait donc le 29 mars 1969. En 1972 est créé le CCL, Conseil central laïque, englobant les deux communautés laïques, Nord et Sud, donc le Centre d'action laïque communautaire dont je vais vous parler, et sa version flamande, l'UVV, ne m'obligez pas à prononcer le nom. Unie Vredzendike Vereniging. C'est plus ou moins ça, je pense. La même année est adopté donc le symbole de la laïcité organisée en Belgique que vous connaissez tous, le flambeau rouge, celui que nous avons ici. Sauf que celui-ci n'est pas encore actualisé, je vais vous dire pourquoi. Ce flambeau, symbolise la lumière nécessaire à la recherche de l'épanouissement optimal de l'homme, la lucidité qui éclaire la marche du progrès et est assortie des silhouettes humaines représentant la fraternité universelle. Ce symbole a évolué afin d'éviter tout amalgame. Les bons hommes, que vous voyez là, sont devenus hommes et femmes, pour éviter certaines remarques sexistes, et la couleur noire, que vous voyez là, a été remplacée par du vertiel, qu'on ne conduise pas qu'il y ait que les blacks qui soient laïques. Récemment, ce symbole bénéficie pour le Benelux de la protection juridique découlant du dépôt de marque. Comme de quoi, même l'associatif est rattrapé par notre ère industrielle. En 1977, création du Centre d'action laïque de Liège, d'où je viens, et s'en suivent la formation des 6 autres centres des 10 prochaines années, jusqu'aux années 80. L'église orthodoxe est reconnue en 1985, après l'entrée de la Grèce dans la communauté européenne en 1981. On s'est dit qu'effectivement, après l'islam, on n'avait besoin de personne, on allait les reconnaître. Puis la Grèce rentre, mais ils sont orthodoxes, ben on va les reconnaître aussi. En 1990, vote de la loi sur la dépénalisation partielle de l'IVG. Le roi Baudouin, ce jour-là, refuse de signer, écrit une lettre au Premier ministre Wilfried Martens et se met dans l'impossibilité de régner par une astuce constitutionnelle. Je ne l'ai pas spécialement ici, mais j'ai été la lire. On précise juste que si le roi n'est pas en état de régner, ben, tout le monde autour est censé prendre les rênes. Enfin, il faudra attendre le 21 juin 2002 pour une reconnaissance officielle de la laïcité en tant qu'organisation philosophique non confessionnelle. Les autres communautés, comme par exemple les témoins de Jéhovah, les mormons ou les bouddhistes, ne sont pas encore reconnus et sont le plus souvent constituées en SBL. Mais pour ces derniers, donc les bouddhistes, le gouvernement fédéral a entamé le processus de reconnaissance le 30 mars 2007. Ils n'ont donc pas accès pour le moment au financement public. Un peu plus petit, parce qu'il y avait un peu plus de choses. Donc 1830, Révolution belge et concordat entre catholiques et libéraux, l'Église catholique est reconnue comme religion majoritaire. 1832, reconnaissance du culte israélite. 1870, reconnaissance de la religion anglicane. 1958, le pacte scolaire, donc séparant les deux styles d'enseignement. 60-70, création d'associations laïques dans lequel. 74, reconnaissance de l'islam. 85, reconnaissance de l'église orthodoxe. 2002, reconnaissance de la laïcité organisée en tant que communauté philosophique non confessionnelle. Et enfin, 2007, l'introduction du dossier pour la reconnaissance du bouddhisme. Voilà donc ici un bref historique de la laïcité en Belgique. Donc en fait, de la laïcité organisée reconnue comme culte. Donc voilà, donc maintenant je vais un petit peu expliquer laïcité politique, laïcité philosophique, qui est différente avec athéisme, agnosticisme, libre-pensée, humanisme et bouddhisme. Donc, reconnue officiellement en 2002, la laïcité organisée est donc le dernier culte reconnu par l'État belge au même titre que les 6 autres. Redéfini en 1999, l'objet social duquel, tel qu'il est formulé, montre le double sens de la laïcité qu'il défend, d'où l'ambiguïté de la situation. D'une part, une certaine laïcité pour l'État, je cite, « la volonté de construire une société juste, progressiste et fraternelle, dotée d'institutions publiques impartiales, garante de la dignité de la personne et des droits humains, assurant à chacun la liberté de penser, d'expression, ainsi que l'égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, d'origine, de culture ou de conviction, et considérant que les options confessionnelles ou non confessionnelles relèvent exclusivement de la sphère privée des personnes. » Voilà. Cette vision politique qu'a lequel se veut similaire au système français, mais ne l'est pas du tout, car en acceptant par principe le fait d'être subventionné, il ne revendique donc pas vraiment une laïcité politique, sinon il scierait la branche sur laquelle il est. Dixit Pierre Galland, président du CAL communautaire de Belgique, « la charité, il faut d'abord la faire à soi-même. » Cette déclaration est pour moi une lâcheté idéologique crasse. Il se contente donc de revendiquer une meilleure proportionnalité de la subvention des cultes, dont on parlait tantôt. Malgré cela, l'initiative est assez louable parce qu'il faut savoir que plus de 80% de celui-ci va au culte catholique. Vu la réalité de la situation, il est temps d'agir car il faut savoir que 60% de la population se déclare encore catholique sans pour autant pratiquer. Et donc, on a plus ou moins fait le calcul qu'il y a encore 15% de pratiquants catholiques en Belgique. Si on appelle ça une impartialité ou une neutralité, il faut qu'on m'explique. En effet, comme j'ai déjà évoqué précédemment, l'État en lui-même n'a jamais eu dans l'idée d'être complètement indépendant de certaines communautés philosophiques, et la mise en place d'un système réellement impartial entraînerait la modification de plusieurs articles, dont l'article 181, de rémunération des cultes. Nous ne serons donc jamais dans un État purement laïque. Comme vous pouvez le constater, ce système est valable, du moins dans sa version idéale ou utopique, pour tous les citoyens confondus. Nous pouvons donc en déduire que certains croyants peuvent être partisans de ce système et donc se proclamer laïcs. Partisans d'un État qui les considérerait en tant que citoyens sans aucune référence à leur religion. Et dans ce cas-ci, ils auraient raison de le faire, donc de se considérer laïcs, mais avec une spécificité de taille. Ceci, c'est que ceux-ci sont évidemment considérés pour ma part comme des laïcs politiques. Concernant cette laïcité politique, il existe un autre mouvement ici en Belgique, se nommant le Rappel, dont fait partie d'ailleurs Nadia Geerts, et dont j'initie l'antenne liégeoise. Donc, le Rappel, qui est le réseau d'action pour la promotion d'un État laïque, cette association a l'avantage de ne pas faire partie de la laïcité organisée et donc de ne pas être subventionnée par l'État. Ça lui permet donc de pouvoir militer pour un État purement et simplement laïque. Des personnes de toute confession peuvent y adhérer, ce qui n'est pas spécialement le cas pour l'autre axe de la laïcité organisée, l'axe philosophique. En effet, le CAL propose une autre conception plus personnelle de ce qu'est la laïcité, une conception philosophique. Je cite « L'élaboration personnelle d'une conception de vie qui se fonde sur l'expérience humaine, à l'exclusion de toute référence confessionnelle, dogmatique ou surnaturelle, qui implique l'adhésion aux valeurs du libre examen et d'émancipation à l'égard de toute forme de conditionnement et aux impératifs de citoyenneté et de justice. » Généralement, la laïcité philosophique est assimilée à l'athéisme, voire à l'agnosticisme dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais celle-ci possède bon nombre de caractéristiques supplémentaires que pourrait ne pas avoir un athée, du moins dans le sens étymologique du terme « athée sans Dieu », comme déjà la volonté d'un État laïque et certains principes humanistes et citoyens. Je donne un contre-exemple, cela ne semblait pas être le cas de certains communistes prônant un athéisme d'État dans l'ancienne Union soviétique. C'est d'ailleurs pour cela que l'association que je préside, d'ailleurs avec mon ami Jean-Roger Gantet ici présent, se nomme les athées humanistes, car il est primordial que ces notions d'humanisme soient présentes afin de ne pas créer une certaine confusion dans l'esprit de certaines personnes réticentes voulant nous rejoindre face à un certain mythe d'absence de moralité ou d'humanisme chez les athées. On l'a déjà vu pas mal de fois. Continuons sur la spécificité des mots. Il est donc possible qu'une personne ne se retrouve dans aucune communauté philosophique confessionnelle, mais ne soit pas laïque pour autant. Effectivement, ce n'est pas parce que cette personne ne se confesse pas qu'elle est forcément laïque ou athée. Ceci pour vous démontrer que communauté philosophique non confessionnelle, laïcité et athéisme ne sont pas forcément synonymes. Surtout que pour couronner le tout, ce dont on parlait tout à l'heure, le bouddhisme a désiré, lors de sa remise de dossier, vouloir être reconnu comme communauté philosophique non confessionnelle, comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça. Voilà pour laïcité politique et philosophique. Un petit résumé, donc d'une part la laïcité neutralité politique, société juste, progressiste, fraternelle, impartiale et neutre, ça fait beaucoup, lequel accepte cette neutralité mais demande des meilleures proportions pour les subventions agro-agriculte. Puis d'autre part, la laïcité philosophique, positionnement idéologique personnel reposant sur un adogmatisme libre-exaministe et humaniste répondant aux impératifs civiques de notre société. Et dernièrement, donc ne pas confondre laïcité avec athéisme ou avec communauté philosophique non confessionnelle, même si ces mots sont fort proches. Donc, les prises de position du CAL sont assez multiples, en fait, et portent sur l'ingérence directe ou indirecte du religieux dans la sphère publique, c'est-à-dire donc dans l'ensemble des services gérés par l'État. Depuis la mise en place du pacte scolaire en 1958, le réseau de l'enseignement a été scindé en deux, donc l'un officiel, où on dispense notamment les cours de culte reconnus, et l'autre, l'enseignement libre, que l'on pourrait définir de catholique ici en Belgique. Des problèmes émergent avec la place du religieux tant au niveau de l'enseignement que dans les autres sphères de notre société. Problématique de port de signes religieux ostentatoires dans les services publics et dans le milieu scolaire, problématique de mise en place d'aliments certifiés halal ou kasher dans les cantines scolaires par le pouvoir organisateur suite à certaines pressions de parents d'élèves, problématique sur le refus de suivre les cours suite à la pression familiale ou à l'endoctrinement de celui-ci fait de manière consciente ou inconsciente que je nommerai l'éducation religieuse, le programme, c'est-à-dire par exemple le cours de natation, donc où on voit effectivement ce problème avec certains parents qui refusent que leur fille aille avec les garçons à apprendre à nager, ou le cours de biologie, quand on voit donc certaines réticences par rapport à l'enseignement de l'évolutionnisme, parce que certaines personnes croient que Dieu a tout créé, donc on appelle le créationnisme, dont Joël Perboom a déjà parlé ici. Donc Joël Perboom est un professeur qui a fait son mémoire sur la différence entre évolutionnisme et créationnisme, et expliquer un petit peu les deux notions. Et pour revenir à une problématique plus globale, certains jours de congé d'origine religieuse et surtout leurs conséquences sur la vie de certains croyants. Le souci d'aujourd'hui est le retour du religieux dans certains quartiers et donc dans certains milieux publics de la Belgique. Ceci est problématique car certaines religions n'ont pas encore été sécularisées. Par exemple, on prend l'islam qui n'a pas encore été spécialement sécularisé ici par rapport à la Belgique, alors que la religion catholique effectivement est rentrée plus ou moins dans les mœurs quand on voit, comme je l'ai dit, le calendrier. Effectivement, bon, on a des jours de congé, Noël, Pentecôte, etc., qui sont des jours effectivement d'origine religieuse. Et donc, en fait, on n'a pas été encore sécularisé, c'est-à-dire que le sacré ne s'est pas encore séparé du contexte temporel. Nous en arrivons à certains extrémismes quand certains religieux utilisent leur religion de manière intégriste, c'est-à-dire lisent les textes sacrés et les interprètent de manière littérale à des fins politiques. Afin d'éviter ce genre de choses, le Centre d'Action Laïque souhaite que le religieux ne vienne pas s'immiscer dans le milieu public quel qu'il soit, et que le gouvernement prenne des mesures en ce sens. N'oublions pas que, mis à part les employés du service public, il n'existe aucun texte officiel, donc dans aucun texte légal, que ce soit pour le milieu professionnel ou politique en général, ou concernant le règlement d'ordre intérieur des établissements scolaires, sur les ports de signes religieux ostentatoires. Donc là, en fait, il y a effectivement pour le service public, où là, l'agent est tenu à une certaine neutralité, et sinon, pour le reste, c'est laissé au pouvoir organisateur, que ce soit dans n'importe quel service public, et même encore maintenant dans les écoles, bien que la plupart des personnes du pouvoir organisateur ont remarqué qu'il y avait quand même pas mal de tensions avec le port de signes, quand interdisant le port du signe, donc il y a 95% du réseau maintenant qui interdit le port de couvre-chef, qui peut sembler tout à fait normal. Maintenant, le souci, c'est qu'il manque encore de législation claire là-dessus. Je veux dire que l'État n'a pas encore pris le parti, malheureusement, en voulant rester neutre, de dire ben non, on l'interdit tout bonnement. Voilà. Nous avons vu les problèmes actuels que ça a causé, que ce soit chez certains politiques, si les gens au Parlement belge ou européen avec des signes religieux. On se souvient de cette dame qui était venue avec son voile, et en réponse à cela, un athée était venu avec sa toque « Dieu n'existe pas ». C'est lui qui s'est fait foutre dehors. Le procès récent contre les lignes de magasins Emma, ayant licencié une employée voilée, donc en fait elle est revenue avec son voile, et en fait certains clients se sont plaints, moi je pense à juste titre, en disant écoutez, je suis servi par une dame voilée, ce qui n'est pas spécialement de la tolérance ou quoi, c'est juste qu'à partir du moment où on connaît un peu la symbolique du voile, où on connaît un petit peu vraiment cet obscurantisme, cet intégrisme religieux sur la pression que l'on fait sur les femmes dans cette religion-là, bah moi aussi ça me choquerait qu'effectivement une dame, quand je rentre dans un magasin, me serve voilée. Et puis aussi nous avons donc certains professeurs prônant l'égalité de l'évolutionnisme et du créationnisme, donc certains professeurs de religion qui disent oui mais vous savez, voilà, il y a l'évolutionnisme, ce qu'on vous expliquait c'est qu'il y a aussi le créationnisme, et moi je ne comprends pas pourquoi on ne l'enseigne pas. Donc effectivement on arrive à certains problèmes avec l'ambiguïté entre le savoir et la croyance qui ne doit pas se poser dans une école. Certains établissements scolaires se sont même communautarisés car acceptant encore les signes ostentatoires religieux. Celui de Verviers, donc un établissement près de Liège, a récemment pris l'initiative d'interdire enfin à son tour les signes ostentatoires religieux, mis à part au cours de religion correspondant. Ben oui, il faut quand même un peu rester logique à partir du moment où on enseigne une religion et qu'on ne met pas trop de trucs par rapport à sa crédibilité. Ceux-ci se sont enfin aperçus que le port du voile constituait plus une discrimination positive ou négative que si on ne le mettait pas. Et que de plus, le milieu scolaire est un milieu de savoir, prônant l'égalité et l'émancipation de chacun. On se demande encore pourquoi des cours de religion sont dispensés. Donc, un petit résumé. Donc, le cadre d'une législation stricte quant à l'interdiction de l'ingérence du religieux dans le milieu scolaire, port de signes ostentatoires religieux, aliments halal et kasher, refus de suivre le programme scolaire pour conviction religieuse, et de l'ingérence tout court du religieux dans toutes les strates de la société. Donc maintenant, on va passer en fait à l'obscurantisme en Belgique et en Europe. Je vais d'abord un petit peu par rapport au créationnisme d'ailleurs, parce que Harun Yahya, donc c'est un turc créationniste assez puissant, parce que très très riche, et en fait ce gars-là a envoyé tout simplement son atlas de la création à toutes les universités et écoles d'Europe. Donc en fait c'est un atlas, c'est une bonne grosse brique, tout en donc, papier glacé, machin, image couleur, qui donc en fait, qui est un livre créationniste en fait, qui explique qu'il n'y a jamais eu d'évolution. Et c'est vrai que, heureusement d'ailleurs, que donc en fait il a envoyé ça et donc le corps enseignant a quand même un peu analysé le machin, et puis un jour il y a quelqu'un qui a dit ouais mais ça c'est pas vrai. Mais je veux dire, ça, au début ça n'a pas fait l'unanimité en se disant mais oui mais non, enfin ouais, création ça n'a pas la tête ou quoi, non. On a commencé un petit peu à être un peu sceptique sur ce genre de bouquin. Et puis, après moult recherches, effectivement, ils se sont aperçus, ben non, c'est créationniste, ça n'a rien à faire dans les écoles, donc on n'accepte pas. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut savoir que le créationnisme en Europe, parce que c'est vrai qu'ici, bon, on a donc certaines législations en France, en Belgique, etc., mais pour certains pays encore en voie de développement, bon, c'est pour certains pays de l'Est, ben, c'est vrai qu'il y a encore cette notion. Donc vraiment cet enseignement sur le créationnisme qui est fort fort présent et qui peut arriver à pas mal de dérives assez graves. Je vais d'ailleurs vous montrer ici, j'ai choisi en fait pour ce chapitre-là une petite vidéo. Donc, pour la lutte contre l'obscurantisme, en fait, c'est tout simplement le dialogue qu'il y a eu entre les laïcs et le Parlement européen il y a quelques mois de cela. Et en fait, par ce dialogue, qui est censé être dicté par l'article 17 donc, du traité de Lisbonne, on précise que le Parlement européen doit entretenir un certain dialogue avec les églises et les laïcs de notre côté. On va peut voir ici que le dialogue est un petit peu sourd.
Le 30 novembre 2011, après plusieurs mois d'attente, le Parlement européen convie enfin la Fédération humaniste européenne à un séminaire de dialogue, comme le prévoit l'article 17 du traité de Lisbonne. Une réunion qui, en toute logique et en toute impartialité, se devait être à la hauteur de celle organisée pour les églises quelques mois plus tôt. Mais pour la FHE et les autres organisations laïques invitées ce jour-là, la journée commence plutôt mal. Il s'avère en effet que la réunion a été programmée au même moment qu'une séance plénière du Parlement européen, ce qui limite évidemment la présence des députés.
Arrangements for the meeting were not made plain in advance. No one knew what the
Donc, président de la Fédération humaniste européenne.
J'étais prévenu que je devais intervenir la veille, si j'avais dit.
Et le grand maître du Grand Orient de Belgique.
Aussi bien du sujet que du fait que je devais intervenir, ça pèse sur la qualité, oui.
Mais la frustration ne se limite pas aux préparatifs de la réunion. Ainsi, en l'absence de Jerzy Buzek, le président du Parlement retenu par ailleurs, c'est le vice-président Laszlo Tokes qui est désigné pour diriger les échanges. Laszlo Tokes est officiellement en charge du dialogue entre le Parlement, les églises et les organisations non confessionnelles. Petit détail, il est aussi évêque. Ce profil particulier suscite des doutes quant à son impartialité, ce qui se confirme dès l'ouverture de la séance. S'adresser à un public laïque, on en conviendra. Mais Laszlo Tokes n'en a qu'une et poursuit son introduction en qualifiant de laïque les dictatures communistes qui ont sévi en Europe de l'Est durant plusieurs décennies. Pour le public, c'est l'affront de trop. Et la tension commence à monter.
Le grand maître qui n'est pas content du tout.
Présidente de la plateforme du Parlement européen pour la laïcité en politique, décide alors
de la qui gère. Donc le dialogue entre les
I would just love to state for the record, Mr. Chair, that I feel that under these conditions and the fact going to refuse to reply, but I do not see point in this meeting. I'm very sorry. I don't see no point in this meeting. If there is no true dialogue, if there is no true debate on, let's say, European values and secularism in Europe, if there is somebody chairing who mentioned atheism and dictatorship in one sentence, I mean, I do not feel represented by him. So it is an affront in every respect, and it is very clear to me that religious organizations are getting more and more privileged access to the corridors of power, and the secularist voices are heard less and less. It is high time that this so-called dialogue with churches and non-confessional organizations becomes a true dialogue on European values, because as we are now rapidly actually moving into a political union, values are all the more important, and they cannot be determined exclusively by small conservative religious lobbies.
Peu après le départ de Sophie Nutfeld, d'autres députés comme la Belge Véronique de Keyser tenteront également de s'exprimer. Mais d'échange en échange, le dialogue de sourds ne fera que s'accentuer. Un peu plus tard, soit près de deux heures après le début de la séance, Jerzy Buzek arrive enfin. Mais à peine assis, le président du Parlement annonce qu'il doit se rendre à une réunion. Il se lève, salue les invités et disparaît définitivement. Ainsi donc se déroule le dialogue entre les laïcs et le Parlement européen.
I don't think that I heard this principle of equal attitude to others, but I have the impression that some of the secularists are so much anti-clerical.
It was a very interesting meeting. Vice President Tekes is with the dialogue. He doesn't understand how dialogue should be conducted, how it could be impartial, and how it could seem with someone like himself in charge, with some of the things he says, to be very partial. There is a problem with individuals. Some of the individuals who have been involved in organizing the dialogue have undoubtedly behaved as if they are totally biased in favor of the religions. I won't name names, but it is hopeful that there's going to be a new president of the parliament.
Qui était nommé ce genre en janvier dernier. Donc on verra bien si ça va peu. Voilà, bon, pour cette petite vidéo. J'ai eu l'occasion en fait d'aller au Parlement européen en fait. Donc juste avant ça, donc juste avant ce dialogue-là, où nous, entre laïcs, on était censé un petit peu discuter, voir sur quoi déjà on voulait discuter et avec qui. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait encore un grand maître maçon qui était là. Il y avait donc la Fédération humaniste européenne, il y avait le Centre d'action laïque communautaire. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était assez flou parce que sur quoi voulons-nous parler ? Est-ce justement des communautés non confessionnelles ? Est-ce sur une certaine laïcité, un certain humanisme ? Peut-être plus profondément sur un certain athéisme ? Et en fait, pendant 4 heures, parce que ça a duré 4 heures, c'était assez long sur la fin, on s'est donc aperçu que même nous ne savions pas avec qui on voulait parler et de quoi. Donc au dernier point, donc, et les francs-maçons dans tout ça ? Donc, les francs-maçons, comme vous le savez sûrement peut-être, cette organisation discrète et fraternelle que vous connaissez très certainement, et dont Patrick Hanau a déjà parlé ici il y a quelques mois. Donc, Patrick Hanau, franc-maçon, a un peu parlé du lien qu'il y avait entre franc-maçonnerie et libre-pensée. A-t-elle influencé, oui ou non, le mouvement laïque ? Ben, je répondrai un peu comme ceci, oui avec un grand si et non avec un grand mais. Le mouvement laïque est indépendant de la franc-maçonnerie, une partie des sympathisants ou des responsables des associations laïques à tous les niveaux ne sont pas du tout francs-maçons. Sinon, on se retrouverait avec près de 10% de la population belge en loge, ce qui me paraît un peu beaucoup. Le Vif, l'Express dénombrait dernièrement, donc fin janvier, plus ou moins donc 24 900 membres en Belgique, soit 0,2% de la population belge, alors que les laïcs sont au moins 9% en Belgique, enfin d'après les subventions. De même qu'un certain nombre de francs-maçons ne se reconnaissent pas nécessairement dans la laïcité organisée belge, comme elle est pratiquée actuellement, même si les convergences sont nombreuses, Hervé Askin s'étant dévoilé comme franc-maçon, ayant quelques petits contentieux idéologiques avec celui-ci, donc comme je l'expliquais tout au début de la conférence, ça, pour lui ça tient plus d'une certaine fatalité que d'une idéologie. Donc en fait, quand j'étais le voir donc à la conférence, mais il a répondu, oui c'est vrai, nous subventionnons les cultes, oui ou non, moi je n'ai aucun problème avec ça, sauf qu'à aucun moment on n'aura plus assez d'argent pour tous les cultes et qu'on devra arrêter de les subventionner. Oui, d'accord, c'est un peu la fatalité, mais ce serait quand même assez sympathique derrière ça qu'il y ait une certaine volonté, qu'il n'y ait vraiment pas de subvention et qu'on soit vraiment un état laïque. Par contre, oui, la laïcisation de la Belgique doit beaucoup à certaines loges maçonniques dont les idéaux de liberté, de progrès, de solidarité ont été concrétisés, notamment par la fondation de l'Université libre de Bruxelles en 1834, à l'initiative de loges des Amis philanthropes et quelques années plus tard de la Ligue de l'enseignement. Au XXe siècle, ce seront aussi des francs-maçons qui fonderont la pensée et les hommes, l'assistance de morale aux détenus, et la fondation de morale laïque. Voilà, petit résumé, donc laïcité et franc-maçonnerie sont indépendants. Tous les laïcs ne sont pas francs-maçons, et le contraire, tous ceux-ci ne sont pas laïcs. Mais la laïcisation de la Belgique doit beaucoup à certaines loges maçonniques. Parce que c'est vrai que j'ai encore eu le coup, en fait, quand j'étais au brunch du rappel, où je discutais du centre d'action laïque avec un gars, oui, mais vous savez, centre d'action laïque, autant parler du GEB, donc qui est le grand appelé en Belgique, autant parler du GEB, tous les maçons sont laïcs et le contraire, enfin il n'y a pas un amalgame énorme. Je dis non, c'est faux. Effectivement, il y a certains laïcs dans la société qui, dans leur vie personnelle, sont maçons. Et comme j'ai dit, il y a parfois aussi certains maçons qui connaissent vaguement la laïcité, donc la laïcité organisée en Belgique, et qui disent oui, je suis sûrement laïque, mais ils ne connaissent pas plus que ça, tout simplement. Voilà. Merci de votre attention et bonne Saint-Patrick à tous.
Merci à toi. Merci.
Evolution is a fact.
Oh yeah, yeah.
We can prove it in the lab.
Oh, yeah,
homeopathy isn't real.
Oh yeah, yeah.
When it's tested, it fails.
Oh yeah.
The crop circles are fake.
Oh yeah.
Man, we got it on tape.
Oh yeah.
Their arguments are lame.
Oh yeah, yeah.
All they ever have to say is.
Oh, yeah.
I don't think they're listening. Just indulging their cognitive dissonance, superstition, all sorts of ridiculous implements. Like ghost hunters abusing their instruments and acting like we're dismissive. I'm pissed, man, I'm getting sick of this. Maybe first you should develop hypotheses that you then test and try to falsify honestly. As for astrology, that's hardly a threat. I can kill it with two words, Barnum effect. That kind of thought process is hard to respect. You can't spar with the best, you haven't built your arsenal yet. Mark them for death, I will pummel them. Defenses better double them. I make conspiracy theorists think I'm part of the cover-up. I can understand distrust of those who govern us, but all conspiracies are undercut when they start to bubble up. Watch them collapse slow, asshole. Gasp with the men in black though, carrying alien shrapnel. They're just repeating themselves, I call them fractals. Tin foil hats in the back of their pack shows. Shaking with paranoia, annoyed, but they're putting up with it. Popping placebo pills that are mislabeled as supplements. I go on for days, there's too many to say. From alternative medicine to their free energy claims. But finding a believer who will listen is rare. All they ever really say is,
oh yeah, yeah.
Vaccine safety is back.
Oh yeah,
we can prove it in the lab.
Oh yeah. yeah.
None of these psychics are real.
Oh, yeah, yeah.
When they're tested, they fail.
Oh, yeah.
The new world order is fake.
Oh, yeah.
Someone will give it away.
Oh, yeah.
Their arguments are lame.
Oh, yeah.
All they ever have to say is,
yeah,
I don't have all the solutions. The truth is that I'm only human. Maybe there's confusion about the hubris. My rule is no presuming, unassuming. If there's no evidence, I sit it out. Give the benefit of the doubt to a critic pit. Every belief trying to hit it down, but they still got the burden of proof. So if they try to work an excuse into their research and they assert in the lose, only a worthy of proof will ever alter belief. It gets exhausting when they're talking to me with all the deceit. I'm like,
the age of the earth is back.
Oh yeah.
We can prove it in the lab.
Yeah, yeah.
When it's tested, it fails.
Oh, oh, oh yeah.
Claims that aliens are fake.
Oh, yeah.